bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Anne-Toscane Viudès, Aliette Ovine, Louis Drillon et Anne-Sophie Pierry. À la réalisation, Rafik Zénine, prise de son, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Arjuna Andrade.
Premier jour de notre série consacrée à l'héritage. Héritage économique, bien sûr, mais aussi politique et social, puisqu'au-delà de l'argent, nous recevons aussi de nos parents des mots et des pratiques. Demain, nous interrogerons les rouages du capitalisme familial pour tenter d'en saisir les spécificités. Puis, nous tenterons de comprendre de quoi l'héritage est aujourd'hui le nom, simple patrimoine ou malédiction en partage. Nous irons pour cela du côté de la sociologie, de la transmission, avant de nous demander jeudi s'il ne faudrait pas tout simplement abolir l'héritage. Mais tout de suite, nous partons aux premières heures du royaume de France. L'Empire romain s'effondre et Clovis, tout juste sacré roi, instaure la fameuse loi salique. Ce texte relativement anodin, simple code de pratiques et de conduite, servira pourtant d'excuse pour exclure durablement les femmes du pouvoir. L'héritage fut ainsi un outil manipulé avec ou sans précaution pour faire tenir pendant des siècles la société d'ancien régime. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Avec nous aujourd'hui pour dénouer les chevaux de l'héritage, Eliane Viennot, professeure émérite de littérature française à l'université de Saint-Étienne, auteur notamment de La France, les femmes et le pouvoir, l'invention de la loi salique, publiée aux éditions Perrin. Avec nous également Jérôme Viré, professeur d'histoire moderne à l'université de Lorraine, auteur notamment de Le sol et le sang, la famille et la reproduction sociale en France du Moyen-Âge au XIXe siècle, aux éditions du CNRS. Eliane Viennot et Jérôme Viré, bonjour.
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 Pour commencer, je vous propose d'écouter le professeur de droit, Pierre Petaut, nous parler des fictions et des constructions autour de cette fameuse loi salique.
Certaines erreurs historiques, à force d'être répétées, prennent une apparence de vérité. Quel écolier de chez nous n'a pas appris que la loi salique avait pour objet d'exclure les femmes et leurs descendants du trône de France? Pourtant, le plus vénérable de nos monuments législatifs ne contient rien de pareil. Il ne touche même dans aucune de ses dispositions à la succession à la couronne. La loi salique, qui est avant tout une sorte de code pénal, s'occupe seulement sur un point des successions privées. Elle n'en est pas moins, et depuis fort longtemps, comptée au nombre de ces lois fondamentales du royaume qui tenaient lieu dans l'ancienne France de constitution non écrite.
La loi salique comme une sorte de constitution non écrite serait donc une pure fiction, Eliane Viennot ?
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette loi salique ? On peut dire qu'elle est mise en œuvre à une époque reculé, où Clovis est au pouvoir et ça suit la chute de l'Empire romain. Mais qu'est-ce qu'on peut dire exactement de cette loi salique ? Qu'est-ce qu'elle comporte comme article concret ?
Alors c'est un des codes barbares, donc il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas que les Francs saliens en Europe, et presque tous ces groupes se sont dotés de codes, comme on vient de l'entendre, essentiellement des codes pénaux, hein, un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce que ça coûte d'enfreindre la loi, etc. Et effectivement, il y a rien dedans, si ce n'est un titre qui porte sur la succession des gens qui meurent sans descendant direct, c'est-à-dire que c'est très rare. Et ce titre porte dans un de ses articles l'idée que un certain type de terre qui avait été confié aux garçons de la famille pour tenir pour faire le service militaire au fond pour les puissants, pour les Romains d'abord et puis ensuite pour sans doute pour d'autres, ce type de terre-là ne peut pas être transmis au fils, ce qui est assez logique dans l'idéologie de l'époque. Et donc ça ne porte effectivement, c'est totalement vide de toute prescription sur l'héritage de la couronne. Et par contre, ça a été utilisé des siècles après pour éliminer les filles de la succession.
Oui, il n'y a donc rien pour exclure les femmes de la succession au pouvoir. Il y a simplement ce dernier article qui dit que la terre, aucune portion n'échoit aux femmes, mais aux sexes masculins. En revanche, il y a un certain nombre d'éléments dans ce code qui sont d'ordre pécunier, des notions d'encadrement de la vie du quotidien. Et ce que l'on voit, c'est que ces peuples barbares sont en réalité assez civilisés et qu'ils ordonnent toute la vie du quotidien selon un certain nombre d'éléments économiques. Tel acte ou le fait d'enfreindre telle loi va avoir une valeur économique, va leur coûter quelque chose.
Oui, c'est-à-dire que ce sont des dispositions qui certainement étaient très difficiles à mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas de police judiciaire dans ces sociétés. Mais disons que c'était un certain nombre d'accord qu'ils avaient décidé pour que quand il y avait eu rupture de la paix entre deux familles, entre deux clans, il y ait possibilité de racheter la paix, hein, plutôt que d'éviter la vengeance. Et donc, ce sont des listes, on a dit longtemps d'ailleurs que la code de la loi salique était comme les autres, des listes de tarifs. C'est-à-dire, si on a tué telle personne, ça vaut tant pour la réparation des dommages. Si on a volé telle chose, si on a, etc. Et puis, il y a quelques autres prescriptions qui relèvent de choses qui ne relèvent pas de l'offense et de la réparation des offenses qui sont sur le remariage, sur les veuves. Et donc, par exemple, là, quelque chose qui devait être assez rare, encore une fois, sur l'héritage des gens qui n'ont pas de descendants directs, ni enfants, ni petits-enfants, ni arrière-petits-enfants, etc. Parce que ça devait être suffisamment rare pour qu'on explique comment ça devait se passer, quoi.
Mais toujours sur ces éléments d'encadrement économique de la vie, j'y reviens. Ce qu'on constate, c'est que la valeur donnée aux femmes à cette époque n'est pas moindre que celle des hommes, voire même l'inverse. Chez les Lombards, par exemple, tuer un homme coûtait entre 100 et 200 sous d'or, mais refuser d'épouser la femme à laquelle on était fiancé en valait 500. Chez les Bavarois, le prix de la vie d'une femme était plus important que celui d'un homme. Donc à cette époque-là, les femmes n'étaient pas moins considérées que les hommes, au moins dans leur valeur purement financière.
Oui, mais c'est pareil dans la loi salique. Par exemple, les hommes et les femmes adultes qui savent se défendre se valent le même prix. Oui, les prix des personnes sont pas fonction du sexe, mais fonction de leur capacité à se défendre ou fonction de leur capacité à être utile à la société.
Utile, on voit notamment que, par exemple, une femme vaut, une jeune fille vaut tant de sous d'or, puis elle devient une femme et elle perd de sa valeur lorsqu'elle atteint la ménopause, car elle n'a plus autant de valeur pour oui. La société.
De la même façon, un garçon avant 12 ans a beaucoup moins de valeur qu'un garçon qui sait se battre, parce que c'est ça qu'on estime, ou bien pour les femmes, leur capacité effectivement à engendrer, sachant par exemple qu'une femme tuée enceinte vaut plus cher qu'une femme tuée non enceinte.
Mais alors cette loi salique elle-même, ce qu'on appelle à l'époque le Pactus Legis Salicae, établi sous le règne de Clovis, établit donc un certain nombre d'éléments. Si un enfant meurt, sa mère hérite. Si la mère est décédée, les frères et les sœurs héritent, etc. Donc on voit que les femmes et leurs relatifs ne sont pas du tout enlevés de ce droit à l'héritage, ni dans les suites qui seront données à cette loi qui sera revue sous Pépin le Bref, puis sous Charlemagne. On renomme à cette époque-là la loi salique la Lex Carolina. Mais les femmes, à cette époque-là, ont tout autant de droits que les hommes, si ce n'est plus à recevoir des héritages. On voit que dans certains codes, c'est une faveur est même donnée aux femmes plutôt qu'aux sœurs plutôt qu'aux frères ou aux maris.
Alors en fait, les différentes versions de la loi salique entre le 5e siècle, on va dire, et le 8e montrent un recul du droit des femmes. Hein, parce qu'on vient d'une société germaniste où elles ont ce qui est pratiquement matrilinéaire. Et évidemment, l'avancée, je ne sais pas si on peut dire le progrès, mais l'avancée du temps montre un recul des femmes dans la capacité à hériter.
Et n'ont aucune mention de la couronne, du droit d'aînesse, pas de lien fait entre ce code et le fait d'avoir accès à la terre et le fait de pouvoir régner. Ce code était surtout fait pour fixer les comportements et non établir une quelconque constitution politique, comme on l'entendait au début. Il ne fixe pas plus d'éléments relatifs à la primeur, à la légitimité des cadets ou des aînés, pas plus que ceux d'un premier mariage ou d'un second, pas plus non plus que celui des bâtiments. bâtards. Je vous laisse
écouter. De tout temps, il y a eu des bâtards, parce que de tout temps, la nature a été corrompue. Mais les lois qui n'en suivent pas les dérèglements ont cru imiter Dieu même en faisant un peuple à part, exclu de tout nom, de toute succession, de toute faculté de tester et par conséquent de faire souche et lignée. En un mot, un peuple dévoué à l'obscurité la plus profonde, sans consistance, sans existence, la plus vive image du néant. Il est donc vrai que de tout temps il y a eu des bâtards, et de tout temps aussi des lois qui les anéantissent. Il ne l'est pas moins qu'il y a eu des bâtards de princes, de seigneurs et de particuliers qui se sont élevés par leur mérite au-dessus du sort de leur origine et qui ont été revêtus de biens et d'emplois, quelques-uns même d'éclatants. Mais si on les examine, on les trouvera en même temps inhabiles à tous autres biens qu'à ceux de la fortune, et que, parmi tout le lustre acquis par leur mérite ou par la protection de leurs parents, les lois n'ont point fléchi en leur faveur.
Vous avez donc peut-être reconnu le verbe fleuri du duc de Saint-Simon dans cette lecture des mémoires sur les légitimités du duc de Saint-Simon, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho, le mémorialiste qui nous fait part de son indignation quant à la légitimation du comte de Toulouse, l'un des enfants naturels de Louis XIV. Le duc nous parle ainsi d'une loi naturelle, immémoriale, divine presque, alors qu'en fait ce n'est qu'une construction relativement tardive, Eliane Viennot.
Oui, avant la féodalité, les enfants de tous les lits sont considérés à peu près de la même manière, en tout cas en fonction des alliances qui ont été faites par les parents. Donc on ne fait pas de différence ni entre les aînés, ni entre les cadets, ni entre les prétendument illégitimes ou légitimes, parce que la question de la légitimité de toute façon ne se pose pas de la même façon avant et après, on va dire, le XIIe siècle, hein, tant que l'Église ne met pas vraiment sa patte là-dessus, sur les mariages des grandes familles pour dire ce qui est légitime et ce qui n'est pas légitime.
Mais alors cette forme de légitimité qui est imposée par l'Église catholique renvoie en réalité à des considérations plutôt morales, plutôt qu'à des considérations pratiques qui étaient de transmettre la couronne.
Il y a les deux, parce que en fait, surtout il y a la société, puis il y a la transmission de la couronne. La transmission du trône, ou de la couronne, comme on veut, ou du royaume, c'est quelque chose de très particulier. En tout cas, on voit que les premières dynasties, la première dynastie, les Mérovingiens, et ensuite jusqu'au milieu de la deuxième dynastie, ces gens-là ne savent pas, ne connaissent pas, n'ont pas mis au point la technique de la transmission au fils aîné. Et donc, c'est des guerres intestines tout le temps, puisqu'on partage le royaume. Et ensuite, alors entre les garçons, en général, première génération, il y a même une fille qui en a hérité d'un morceau, on partage. Et ensuite, évidemment, c'est la guerre entre eux pour pouvoir récupérer les autres morceaux. Donc, dans ce niveau, à ce niveau de la société, le sommet, on peut dire, quand même, au bout de quelques siècles, ils ont fini par trouver le truc, si on peut dire, de transmettre seulement à l'aîné pour que le royaume ne soit pas à chaque fois divisé. Donc ça se passe dans les années 800, quelque chose comme ça, 850. Après le partage de 843, il y en a plus d'autres des partages parce qu'on a compris ça. Mais en revanche, dans le reste de la société, on est encore assez long à trouver. Alors vous en parlerez sans doute mieux que moi, à trouver cette technique de l'héritage au fils aîné. S'il y a un fils aîné, bien sûr, parfois il n'y en a pas. Et à ce moment-là, les filles ne sont pas exclues. Parce que c'est un peu une... Alors, qui a copié l'autre? Personnellement, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est la grande noblesse qui a copié la royauté. Mais en tout cas, il est clair que la transmission d'un royaume n'est pas comparable à la transmission de biens de terre.
Il y a justement une terre qui, pour le coup, n'échoit pas aux femmes. C'est ce dont vous commenciez à parler. C'est la question de la terre salique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors, la terre salique, c'est donc ça, c'est pour les Saliens. Ça vaut pour les Saliens. Il y avait l'équivalent pour les autres. Ce sont des terres qui ont été données au départ, hein, par les Romains aux familles franques. et à d'autres familles pour qu'elles fassent le service militaire, pour qu'elles les aident à lutter contre les autres envahisseurs, si on peut dire, germains. Et donc, il fallait, c'était une manière de sécuriser des alliés, que de leur donner de la terre. Et évidemment, cette terre-là était, on pourrait dire, devait pas être transmise ni à des enfants, ni à, voilà, il fallait qu'elle passe d'un homme sachant se défendre à un homme sachant se défendre. Mais toutes les autres types de terres que les Francs ont eues ou que les autres, les Burgondes, etc., ont pu acquérir sur le sol, enfin sur l'Europe dont les Romains étaient partis, elles se transmettent de manière, encore une fois, égalitaire et entre les sexes et entre les enfants.
Mais on voit cependant un rééquilibrage peu à peu en faveur des hommes, notamment à la période mérovingienne, puis carolingienne. On voit qu'il y a un rééquilibrage en faveur du père vis-à-vis de la mère et des frères. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette reprise de contrôle de la part des pères face aux mères dans cette loi traditionnelle?
On peut dire que le droit romain se gagne du terrain sur les nouveaux maîtres de l'Europe font alliance avec les Romains, et notamment comme c'est surtout les Romains qui possèdent du droit, qui possèdent des élites lettrées, qui possèdent l'écriture, le droit romain progresse. Voilà.
C'est donc l'importance de plus en plus forte du droit romain qui est portée notamment par ces hommes lettrés, ces hommes formés qui viennent notamment des universités, dans les grandes villes. Ce sont les clercs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces clercs qui vont porter justement cette vision peut-être plus machiste, voire plus misogyne de la société où les femmes sont écartées des positions de pouvoir et de l'administration, et qui vont justement peu à peu porter cette idée véhiculée du droit romain et du droit canon, et qui peu à peu va faire une place de plus en plus faible aux femmes dans cette...
Alors ça, c'est plus tardif, hein, parce que les universités sont créées au XIIIe siècle. Avant, bon, oui, il y a des clercs, mais ils sont un peu formés au compte-gouttes. Hein. Alors, la création des universités va servir à faire des fonctionnaires en masse. Et c'est évidemment ces gens-là qui vont être le bras armé des États qui vont se former. Et puis, alors, ils sont évidemment très, effectivement, très attachés au droit romain. Mais enfin, quand on regarde ce qu'ils appellent le droit romain et le vrai droit romain, il y a encore de la distance entre les deux, et là on est vraiment face à un groupe extrêmement machiste, masculiniste, qui entend se tailler des places au soleil à partir du savoir, à partir de son savoir, et en mettant ce savoir au service des puissants, mais en servant au passage.
Oui, c'est ça, ce sont les stratégies de pouvoir qui les avantagent autant qu'ils avantagent leur maître. Et on peut voir dans cette action des clercs une forme de réaction à un moment où justement les femmes commençaient à prendre de plus en plus de place. Non seulement parce que ces textes étaient relativement mal appliqués, ceux datant des Mérovingiens et des Carolingiens donnant plus de place aux pères et aux frères, mais aussi parce que ces pères et ces frères se rendant compte qu'il fallait bien mettre en place des stratégies pour conserver leur territoire, leur fief, vont commencer à transmettre ces fiefs en créant de nouvelles positions, notamment celles des dames, qui ne sont plus les femmes de seigneurs, mais qui sont véritablement des seigneurs à part entière. Et donc on peut voir à ce moment-là que les femmes vont essayer de s'intégrer dans tous les interstices de pouvoir où elles peuvent effectivement aller.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu toute la période de la féodalité qui a quand même redistribué les cartes, hein, et les femmes ont une position très importante dans la société du 11e, du 12e, du 12e siècle. Donc, et elles héritent, et elles sont chefs de fief quand il n'y a pas de garçons, parfois même quand il y en a. Hein. Donc, elles ont des positions de pouvoir très importantes, mais très vite, enfin, disons qu'elles n'ont pas... Elles sont du côté de la noblesse, de la petite noblesse ou de la très grande noblesse ou de la famille royale. Et par contre, les gens qui créent les universités se débrouillent pour que les universités, le savoir, les diplômes, et donc les positions qui sont très vite verrouillée par la détention de diplômes, ne soit accessible qu'à des hommes chrétiens, ce qui veut dire pas de femmes et pas de juifs.
Donc c'est une réaction très forte, d'autant qu'on peut dire à cette période, on parle même au tournant du XIIIe siècle, d'une renaissance féministe. Mais la véritable rupture se produit à l'aube de la guerre de Cent Ans, à la mort du roi Louis X le Hutin. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait Boris Bove dans l'émission 2000 ans d'histoire le 30 novembre 2009.
Voilà, donc c'était un problème en deux temps. D'abord, la première succession, celle de Louis X, où on invente une nouvelle règle qui exclut les femmes de la succession. Mais cette nouvelle règle ne va pas de soi, parce que les femmes peuvent hériter des fiefs. Il y a des duchesses en Bretagne, en Bourgogne, et il n'est écrit nulle part que les femmes ne peuvent pas hériter des fiefs, et donc pourquoi pas de la couronne. Simplement, lorsque Louis X meurt, sa fille, c'est une enfant. Enfin, le problème n'est pas son sexe, c'est plutôt son âge, en fait. C'est une enfant de 3 ans. Donc ça suppose une très longue minorité, qui est toujours un facteur de trouble politique. Ensuite, on suppose qu'elle se mariera à quelqu'un et donc elle transmettra la couronne à quelqu'un dont on ne sait pas encore qui c'est. Et enfin, elle est plus ou moins soupçonnée de bâtardise. Donc c'est un ensemble de facteurs qui poussent à son élimination. Et donc on invente une règle, ou plutôt le frère de Louis X parvient à s'imposer avec un consensus, avec le consensus de la société politique. Il fait un coup d'État, entre guillemets, où il s'impose comme nouveau roi et ça arrange tout le monde.
On entendait donc Boris Bove nous expliquer qu'à sa mort, le roi Louis X laisse une très jeune fille comme héritière. Le frère du roi défunt saisit alors cette occasion pour s'emparer du trône, niant le droit de cette jeune enfant au trône de France, alors même qu'aucune loi ne le prévoit. On est alors au début du 14e siècle et c'est un coup de force sans précédent, on peut le dire, qui va avoir des influences durables.
En tout cas, en France, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de coup de force de la sorte. En fait, c'est fréquent, hein, les coups de force dans tous les royaumes en Europe. Quand les héritiers sont en minorité ou en âge, ne sont pas en adulte ou bien sont en difficulté, il y a très souvent des coups de force. Le problème ici, en France, c'est qu'il y en a eu 3 de suite. C'est-à-dire qu'en quelques années, entre 1316, 1322, 1328, la même brave fille, Jeanne de France, fille de Louis X, effectivement, a été éliminée 3 fois par 3 hommes consécutifs, premier oncle, deuxième oncle, puis un cousin, fils de grand-oncle. Et elle était si peu bâtarde qu'on lui a donné en échange, en lot de consolation, on lui a donné la Navarre. Donc elle est devenue reine de Navarre. La Navarre qui était rentrée dans l'escarcelle française quelques 10 décennies avant est ressortie, est redevenue indépendante puisqu'on a mis cette fille à la tête de la Navarre. Donc voilà, c'est effectivement 3 coups de force de suite qui font que cette fille-là est éliminée, une autre fille est éliminée, la fille aînée de Philippe le Bel. Donc on ne sait plus qui est, on ne sait pas d'abord en Europe, on ne sait pas pourquoi les Français ont fait ça, puisque c'est pas vraiment, ils n'ont pas vraiment de culture pour le faire ou de loi pour le faire. Et donc ça va entraîner la guerre de Cent Ans.
Oui, et puis ça entraîne non seulement la guerre de Cent Ans, mais sur la question de la dynastie et de la manière de percevoir et de construire les héritages. On a en réalité bien du mal à démontrer le bon droit de ce nouveau roi valois, et on va assister en réalité à une forme de reconstruction a posteriori de cette loi salique qui s'apparente en réalité à un système de propagande et à la création d'une fiction qui serait cette nouvelle loi salique qui écarterait totalement les femmes de la couronne, et après ça, on n'aura plus jamais de femmes à la tête du royaume de France. Donc c'est un coup de force qui s'étend dans le temps, si je puis dire.
C'est parce que la guerre dure tellement longtemps que ceux qui ont accaparé le trône, hein, les Valois, cherchent à justifier leurs droits. Et c'est pour ça qu'ils font faire des recherches pour essayer de trouver dans les vieux manuscrits quelque chose qui expliquerait pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils sont légitimes à avoir fait ça. Et c'est très tardivement qu'on trouve, on finit par trouver au cours du XIVe siècle, on finit par trouver la loi salique, enfin un vieux manuscrit de la loi salique que tout le monde avait oublié. hein, parce que ça fonctionne plus depuis, légalement, ça ne fonctionne plus depuis déjà 4 ou 5 siècles. Donc, on trouve ça, et au début, les rois n'en veulent pas, hein, enfin, Charles V n'en veut pas. Mais finalement, on cherche partout et on ne trouve rien d'autre. Alors, c'est là-dessus que certains propagandistes vont faire très tardivement, à extrême fin, et on commence à l'extrême fin du XIVe siècle, et ça commence surtout au début du XVe siècle. C'est vraiment on forge une espèce de récit comme quoi, à partir de un petit morceau, une petite phrase, le dernier article de ce dont on parlait tout à l'heure, qui dit que les femmes ne peuvent pas hériter de la couronne, en faisant un faux d'ailleurs, puisque les premiers à populariser ça changent le texte. Ils disent pas la terre salique, mais le royaume. Donc le royaume ne peut pas être hérité par les femmes. Et puis ensuite, il faut faire toute une histoire, il faut refaire l'histoire de France, y compris contre l'histoire que les Français avaient commencé à concocter en disant qu'ils étaient les enfants d'aînés, enfin voilà, on venait de l'Italie, on venait de la Grèce. Bon, là, on change tout, on met tout à zéro et on se réinvente un mythe des origines qui dit que les Français seuls possèdent cette règle qui date d'avant Clovis. Roi Pharamond, que personne ne connaît, un illustre inconnu, aurait édicté la loi salique avec des légistes, pas rien du tout, hein, et alors ils auraient décidé qu'aucune femme ne peut jamais monter sur le trône en France.
Un discours qui est poursuivi et qui va d'ailleurs qui va devenir tellement puissant avec les clercs, les juristes qui s'activent pour prouver l'importance et l'évidence de cette loi dite salique, qui devient tellement puissant qu'il permet même l'arrivée au pouvoir d'un protestant dans un royaume pourtant catholique.
Alors en réalité, le discours, c'est jamais lui qui fait l'histoire. Hein. C'est toujours les rapports de force qui font l'histoire. Mais disons que quand les discours sont là, quand les historiens, tout au moment où Henri IV arrive au pouvoir, on a déjà presque 100 ans d'existence de l'imprimerie. Ça fait presque 100 ans qu'on a fait des histoires de France qui racontent l'histoire de la loi salique. Donc les gens y croient plus ou moins, même si la noblesse n'est assez qui est très cultivé en histoire, croit plus ou moins, mais en tout cas voilà, c'est un mythe et Henri IV s'appuie dessus. Il fait payer des propagandistes pour faire savoir qu'il est roi en fonction de la loi salique. En fait, s'il avait été catholique, il n'aurait jamais eu besoin de batailler. Hein. Il y avait déjà eu des décrochements dans la ligne successorale française par faute de garçons et ça s'était toujours très bien passé. Donc là. Il a besoin de mobiliser cet argumentaire parce qu'il est protestant et qu'il entend arriver sur le trône comme protestant. De fait, il ne va pas y arriver. Hein, parce qu'il y a d'autres, il y en a d'autres qui disent non mais c'est pas lui que ça désigne, la loi salique c'est nous, donc il y a cinq ou six prétendants au trône pendant la dernière guerre civile du XVIe siècle, et finalement Henri IV va être obligé de se convertir, et c'est ça qui arrête la guerre. C'est pas du tout la conviction que la loi salique doit être respectée.
En tout cas, le flou est terminé à ce moment-là. Le sang des femmes ne vaut pas autant que celui des hommes qui vaut au millième degré. Pourtant, on est dans un moment qu'on appelle la Renaissance, qui se veut un moment de redécouverte, même de lumière avant l'heure, s'il en est. Pourtant, on voit qu'à cette époque, le statut des femmes n'est pas du tout enviable, qu'elles subissent de plus en plus justement d'attaques de ce patriarcat porté par les clercs, l'Église, etc. Et
C'est plus ou moins vrai parce que il y a en fait une tension très très grande dans la société renaissante. Mais à partir de la fin du XVe siècle, on a des femmes au pouvoir en France. On a Anne de France, on a évidemment la mère de François Ier, hein, Louise de Savoie. On a ensuite une femme au pouvoir qui est Diane de Poitiers, même si elle n'est que maîtresse du roi, elle est quand même au pouvoir. Ensuite, on a Catherine de Médicis. Donc, on a presque, durant tout le XVIe siècle, des femmes au pouvoir. Ces femmes savent qu'elles sont en difficulté. Elles sont en difficulté. On n'arrête pas de leur dire, les opposants n'arrêtent pas de leur dire, en France, il y a la loi salique, qu'est-ce que vous faites là? Et elles font produire, elles, de la contre-propagande. propagande, si on peut dire. Donc il y a en fait non pas un recul constant et en tout cas qui serait régulier, mais il y a des tensions et des oppositions, mais vraiment très 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 fortes dans la société pendant presque tout le XVIe siècle.
C'était ma question justement dans un moment où les femmes subissent un certain nombre d'attaques de la part de ces clercs et de ces hommes. Qu'est-ce qui fait qu'on laisse ces femmes prendre le pouvoir et le conserver pour certaines pendant longtemps? On peut penser à la mère, bien avant, on peut penser à la mère de Saint-Louis, et puis bien plus récemment à Catherine de Médicis, qui a été par la suite dans l'historiographie, on l'a présentée comme une femme à la limite de la folie, qui utilisait des poisons, etc. Qu'est-ce qui fait que ces femmes parviennent à conserver le pouvoir en dépit de cette misogynie ambiante?
Parce qu'il y a du monde autour d'elle pour penser que c'est moins grave qu'il y ait une femme au pouvoir plutôt qu'une autre famille qu'on ne connaît pas forcément ou qui voudrait tout changer. Et puis en général, quand on permet à la veuve du roi, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, même s'il y a aussi une mère de roi qui est là en tant que régente sous François Ier, alors qu'il est vivant, mais souvent c'est des régentes qui sont là, enfin, il y en a une au moins, qui est là, Catherine de Médicis, qui reste 30 ans comme mère des rois, c'est parce que aussi il y a toute l'équipe au pouvoir en général, mais ça c'est vieux comme Clotilde, on pourrait dire, hein. Il y a une équipe au pouvoir qui connaît la reine, qui connaît parfois ses capacités et qui a envie de rester au pouvoir, tout simplement. C'est le même clan qui va rester au pouvoir grâce à l'ex-épouse qui est devenue, par exemple, veuve.
La noblesse est une qualité qui rend généreux celui qui la possède et qui dispose secrètement l'âme à l'amour des choses honnêtes. La vertu des ancêtres donne cette excellente impression de noblesse. Il y a dans les semences je ne sais quelle force et je ne sais quel principe qui transmet et qui continue les inclinaisons des pères à leurs descendants. Et tout homme issu de grands illustres personnages ressent incessamment au fond de son cœur un certain mouvement qui le presse de les imiter et leur mémoire le sollicite à la gloire et aux belles actions. Mais si, par la négligence ou par la bassesse de son mauvais naturel, il arrive qu'il ne réponde pas à l'espérance de l'ancienne grandeur de ses aïeux à faire concevoir de sa conduite, alors l'éclat de la réputation qu'il avait environnée dès le moment des naissances ne servira que pour la honte, pour mieux faire paraître ses défauts, comme pour augmenter et justifier le mépris qu'on fera de sa personne.
On entendait un extrait du traité de la noblesse et de ses différentes espèces de Gilles André de la Roque, lu par Anne Toscane Viudès de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Il nous parle de cette idée d'une valeur et d'une qualité presque intrinsèque à la noblesse. Mais c'est aussi cet auteur qui nous parle d'une multiplicité des origines nobiliaires, une vingtaine selon lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Jérôme Viré?
La noblesse, effectivement, revendique sa position et légitime sa position à partir de l'héritage par le sang, considère que certaines vertus sont transmises par le sang, que donc il y a sa position, disons, lui, il y paraît tout à fait légitime. Mais bon, le sang, c'est un paramètre également qui compte beaucoup pour les roturiers. Il faudrait introduire une variable qui est la géographie, aussi bien d'ailleurs au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne, où on a une grande diversité de pratiques, et dans certaines régions de France, du Royaume, on était très attaché au sang. Et donc les biens se transmettaient par le sang, avec pour conséquence des droits égaux pour tous les enfants, garçons et filles. Alors, on en discutait tout à l'heure pour ce qui est de la loi salique, hein, qui est un texte normatif. Bon, les historiens sont toujours assez embarrassés avec cette documentation, parce qu'on ignore en fait quelles étaient les pratiques effectives. On dispose de très très peu de documents, hein, même pendant la plus grande partie du Moyen-Âge. Alors, on essaye malgré tout de savoir comment les choses se déroulaient. Dans certaines régions, on a adopté un droit égalitaire. C'est en gros toute la France coutumière, toute la moitié nord du royaume, au nord de la Loire. Et dans la moitié sud, en revanche, on est resté attaché au droit romain. Et on a réintroduit au XIe siècle de l'inégalité. Voilà. Et donc la possibilité par testament de désigner un héritier qui sera à coup sûr, s'il y a des garçons, un garçon. Donc il y a un très gros contraste géographique. Alors ça tient au sang, hein, ça tient beaucoup à ça. La noblesse revendique ses droits et ses pouvoirs à partir de là, mais chez les roturiers, ça a également beaucoup d'importance.
Alors je vais rester pour l'instant sur la question de la noblesse pour essayer de nous intéresser à la question de au-delà du sang, ce qui est important surtout c'est de transmettre des biens et parmi lesquels les seigneuries qui ont une importance particulière, non seulement parce qu'elles confèrent un droit sur la terre mais aussi un droit sur les hommes par la justice qui lui est rattachée et évidemment des revenus. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'importance de ces seigneuries dans les legs? Ce qu'on cherche avant tout à transmettre, et on va mettre en place des stratégies diverses, avec ou sans les femmes, mais c'est avant tout ces seigneuries qui sont la centralité de la dignité de ces familles nobles.
Oui, comme vous le dites, hein, la terre, ce sont des revenus, hein, le support de leur économie, mais c'est aussi un pouvoir, hein. Et donc c'est le fondement de leur statut. Donc quand une terre est transmise, c'est aussi le pouvoir, le rang, l'honneur, hein, qui sont transmis. Donc ils souhaitent le conserver intact, et pour cela ils ont introduit de l'inégalité, le droit d'aînesse. Les médiévistes appellent ça le resserrement lignagé, c'est-à-dire que il fut un temps où les nobles partageaient de façon égalitaire. Et puis là aussi, on situe ça au XIe siècle, on a commencé à introduire de l'inégalité de façon justement à ne pas éclater le patrimoine et puis à ne pas partager le pouvoir. Parce que les honores, c'est-à-dire le pouvoir public, ne pouvaient pas se partager non plus. Donc on transmet les terres, on transmet le pouvoir, on transmet les terres et le pouvoir à l'aîné. Et le titre de noblesse est porté principalement par l'aîné. Voilà.
Mais si les droits sur l'héritage favorisent l'aînesse masculine, ils vont aussi circuler par l'intermédiaire des femmes, parce que la seigneurie ne relève pas que d'une question individuelle, mais elle concerne toute la famille, et donc elles vont aussi se déplacer grâce au contrat de mariage, qui est un outil essentiel dans cette transmission par les femmes des seigneuries, mais aussi des noms qui leur sont rattachés. Eliane Viennot, pardon.
Oui, peut-être mon collègue en saurait plus que moi là-dessus, mais oui, c'est une évidence que les femmes sont sont exclus généralement de ce qu'on appelle le cœur de la propriété et de certains honneurs, mais elles ne sont pas exclues de tout, ça c'est clair. Et il y a même des biens qui se transmettent de la mère à la fille. Il y a des biens qui passent aux femmes avec des titres et parfois même avec des honneurs. Hein, le fait de donner la justice, par exemple, il y a un tas de niveaux de justice haute et basse, mais enfin, les femmes ne sont pas complètement exclues.
Jérôme Viret, elles peuvent même imposer leur nom, elles peuvent imposer à leur mari, qui serait d'une naissance plus basse, de reprendre leur nom et leur fief.
Oui, mais en l'absence de garçon. En l'absence de garçon, parce que la crainte pour les patrilignages, c'est que le nom se perde, que le fief, la seigneurie tombe en quenouille, c'est-à-dire aux mains de l'aide d'une fille, justement, hein, c'est leur peur. Alors, ils imposent au gendre, souvent choisi à ce moment-là dans une noblesse moindre, ils imposent au gendre de changer de nom et de prendre le nom de leur beau-père. De cette façon, on préserve la lignée. Enfin, c'est un peu une illusion, hein, mais ça sauve le nom, ça sauve aussi souvent l'armoirie. On transmet aussi l'écusson, on transmet récupération des armoiries, et donc on préserve l'illusion d'une continuité par le sang, d'une continuité masculine, alors qu'en réalité, bien sûr, c'est le gendre. C'est le gendre qui succède. Hein.
C'est un rapport particulier, celui entre le gendre et le beau-père, car le beau-père peut être celui qui va aider son gendre. On a pu voir ça dans de nombreuses figures littéraires, aider son gendre à monter dans la haute société, à obtenir des charges qu'il lui transmet, parce qu'il n'y a pas que les seigneuries et les fiefs, il y a aussi ces charges qui rapportent beaucoup d'argent et qui peuvent être transmises pour favoriser cette illusion de continuité du beau-père au gendre.
Oui. Et alors, je reviens à nouveau à mes paysans et à mes roturiers. On a exactement le même phénomène dans les sociétés paysannes du sud de la France. On est également très très préoccupé par cette question de continuité par les mâles, par les garçons. De la même façon, quand il y avait que des filles, on faisait ce qu'on appelait entrer un gendre, une entrée en gendre, c'est-à-dire que c'est le gendre qui prenait la succession de la ferme et qui était dans une position à ce moment-là un peu d'infériorité à l'égard de sa femme. C'était très mal vécu, donc les gendres attendaient le décès aussi de leur beau-père en général pour épouser des héritières, parce qu'ils voulaient pas avoir à obéir à leur beau-père. Et donc c'est une situation très difficile à vivre pour les gendres, situation d'infériorité dans une culture et une société où normalement les hommes commandent. Et là, bon, pour des raisons patrimoniales, parce qu'une héritière c'est quand même très convoité, des hommes acceptaient quand même d'entrer dans cette position. Et donc là, il y a quelque chose de comparable avec les grands lignages nobles qui tombaient en quenouille et eux aussi étaient réduits à ce pis-aller, hein, qui est finalement de laisser la seigneurie entre les mains d'une fille et de faire venir un gendre qui prend la suite.
Mais peu à peu, on a une évolution dans ces représentations, dans ces modes de pensée. Vous parliez de l'importance du sang. L'importance du sang se construit peu à peu, en parallèle que l'idée que la qualité d'une maison est à relier avec son ancienneté. Peu à peu, ce n'est plus seulement le titre ou le fief qui est important, mais aussi le temps depuis lequel la famille court. Et c'est pour ça que c'est important de favoriser ces transmissions et ces héritages.
Oui, le temps, alors, à notre époque où on est dans l'immédiateté, hein, et le très très court terme, donc c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir, mais dans les temps passés, effectivement, c'était extrêmement valorisant, le temps écoulé. C'est quelque chose qui procurait une amélioration en soi. Le simple écoulement du temps amenait une sorte de purification à la fois du sang et donc des vertus du lignage. Donc, il suffisait de laisser... Alors, on pouvait déchoir. Il y avait la question de la dérogeance, bien sûr. Le mode de vie avait son importance. Mais si on préservait le mode de vie noble, le temps apportait une patine et une amélioration. Et effectivement, plus on était d'un vieux lignage, d'une noblesse dite authentique ou de race, plus on pouvait en tirer de la fierté.
Voilà. Il y avait donc des comtes ou des barons qui remontaient au 12e, 11e siècle parfois, qui avaient un lustre, parfois même à la cour de France, plus important que certains ducs et pairs de récente extraction, une forme de nouveaux riches avant l'heure. Je vous propose d'écouter la manière dont Proust nous parle justement de l'importance de cette ancienneté des lignages et des familles nobles.
Il porte le titre de baron de Charlus. Régulièrement, quand mon grand-oncle est mort, mon oncle Palamède aurait dû prendre le titre de prince des Laumes, qui était celui de son frère avant qu'il devint duc de Guermantes. Car dans cette famille-là, il change de nom comme de chemise. Mais mon oncle a sur tout cela des idées particulières. Et comme il trouve qu'on abuse un peu des duchés italiens, grandesses espagnoles, etc., et bien qu'il eut le choix entre 4 ou 5 titres de prince, il a gardé celui de baron de Charlus, par protestation et avec une apparente simplicité où il y a beaucoup d'orgueil. Aujourd'hui, dit-il, tout le monde est prince. Il faut pourtant bien avoir quelque chose qui vous distingue. Je prendrai un titre de prince quand je voudrais voyager incognito. Il n'y a pas, selon lui, de titre plus ancien que celui de baron de Charlus. Pour vous prouver qu'il est antérieur à celui des Montmorency, qui se disaient faussement les premiers barons de France alors qu'ils l'étaient seulement de l'île de France où était leur fief, mon oncle vous donnera des explications pendant des heures et avec plaisir, parce que, quoi qu'il soit très fin, très doué, il trouve cela un sujet de conversation tout à fait vivant, dit Saint-Loup avec un sourire. Mais comme je ne suis pas comme lui, vous n'allez pas me faire parler généalogie, je ne sais rien de plus assommant, de plus périmé. Vraiment, l'existence est trop courte.
Les barons les plus anciens de l'île de France et non pas de la France. On entendait ici l'humour et le sarcasme bien connus de Proust dans cet extrait de La Recherche du Temps Perdu, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho, et dans lequel on entend Robert de Saint-Loup, le neveu du fameux baron de Charlus, nous parler de l'importance relative des titres de son oncle, bien moindre en réalité que l'illustre ancienneté de sa famille. On peut dire que cela traduit bien la place que prend cette notion de race et de sang à cette époque, au tournant du 16e, 17e siècle, Jérôme Viret.
Oui, alors c'est vrai que c'est le propos de Proust n'est pas surprenant. Il était inscrit au bottin mondain de 1904, à une époque où, à peu près, c'est Cyril Grand, j'ai écrit un livre sur les gens du bottin mondain, à une époque où pas loin de la moitié des membres prétendument nobles du bottin mondain, en fait, étaient bourgeois. Bon, il y avait en réalité à peu près 20% de nobles au bottin mondain, mais la moitié d'entre eux, pas loin, étaient des faux nobles qui revendiquaient des titres tout à fait fantaisistes, et d'où la réaction de rejet des vrais nobles. Donc, ce qui comptait, c'était le sang, mais par la voie masculine. Hein. Encore aujourd'hui, dans la noblesse, ceux qui se revendiquent nobles mettent en avant la filiation masculine, encore. Hein.
Il y a un autre élément qui va pousser cette ancienne noblesse dite d'épée dans ces retranchements et dans ce rejet de ce qu'ils appellent des faux nobles, c'est l'apparition de la noblesse de robe qui est l'apparition d'une nouvelle forme d'élite, mais qui vient aussi comme une forme de compétition nouvelle qui multiplie le nombre de nobles et donc peut-être dilue leur qualité.
Oui, ça c'est un tournant majeur hein, pour la noblesse, effectivement, de l'émergence d'une noblesse de fonction qui, au sommet de l'État, dans des magistratures suprêmes, considère que les qualités d'un magistrat, d'un juge, valent bien les qualités d'un officier de l'armée ou d'un guerrier. Donc ce sont d'autres valeurs qui émergent, et comme ils veulent aussi bénéficier à la fois des honneurs dus à ce rang et aux exemptions fiscales, parce que c'est quand même un élément très important, c'est que les élites se débrouillaient pour échapper à l'impôt, pour l'essentiel. Hein. Donc c'était aussi un enjeu important pour cette nouvelle élite qu'est la bourgeoisie de robe, de finalement entrer dans la noblesse, accéder à la noblesse, et elle va y parvenir en adoptant le régime successoral, le mode de transmission des biens de la noblesse. C'est en mimant justement le droit d'aînesse qu'elle parvient à se faire accepter comme noble. Parce que il faut bien avoir en tête, les élites ont à toutes les époques adopté des règles spécifiques. On ne peut pas, c'est vrai de la loi salique, on ne peut pas considérer que les mêmes lois s'appliquent uniformément à tous. À toutes les époques, on regarde dans la longue durée, les principes sont modulés, voire franchement transformés en fonction des groupes sociaux.
Là, c'est... C'est ce qui est amusant quand on voit que cette noblesse d'Europe qui subit au début les colibés de cette noblesse plus ancienne va en réalité, c'est ce que vous dites, intégrer les mêmes logiques et de fait renforcer ces logiques qu'on appelle patrilinéagères. Mais il y a aussi le roi qui va avoir son importance dans ce renforcement de cette idéologie patrilinéagère. Parce qu'il va lancer une grande enquête de noblesse portée par Colbert en 1661. Vous parliez de ces faux nobles, c'est justement le moment où on essaye de les faire sortir du bois, de découvrir quels sont ces faux nobles, et dans le même temps de prouver quels sont les anciens et donc les vrais nobles.
Alors Colbert a été chargé de cette enquête. L'objectif était de récupérer de l'argent justement, hein, de remettre à l'impôt des personnes qui s'étaient débrouillées pour en sortir. Hein. Donc le résultat de ça, ça a été plutôt des confirmations. C'est-à-dire que la plupart des nobles ont obtenu une confirmation de leur noblesse. Alors ça dépend des régions de France. Mais la noblesse est sortie plutôt consolidée qu'affaiblie de cette enquête.
Elle est sortie plutôt consolidée, mais pour autant, elle est ressortie aussi plus contrôlée par la monarchie, parce qu'il s'agit non seulement d'enquêter pour savoir quels sont les vrais et les faux nobles, pour faire sortir ces cas d'abus et d'usurpation, mais c'est aussi un moyen de savoir qui et où et ce qu'il fait. Et donc c'est un moyen pour le roi Soleil de prendre encore plus le pouvoir sur ses vassaux de province.
Oui, alors c'est vrai que au Moyen-Âge, la noblesse se fait toute seule, on peut dire, par le mode de vie, par le sang. Elle n'a besoin de la validation de personne, si ce n'est de ses pairs. Hein. Les nobles se reconnaissent entre eux. Et en revanche, c'est vrai, l'État s'affirme très fortement, déjà au XVIe siècle et surtout au XVIIe. Et c'est l'État qui commence à définir vraiment ce groupe, à en donner une définition juridique très rigoureuse. Et donc ça entraîne une certaine fermeture aussi du groupe, qui va finir même par s'éteindre progressivement, puisque pour conserver son patrimoine, la noblesse réduit sa descendance, pratique un malthusianisme avec un célibat important, réduit le nombre des enfants. Certains historiens parlent d'un vrai suicide de la noblesse, puisque les effectifs fondent, les branches s'éteignent. Et donc ça a contribué à l'affaiblissement de la noblesse juste avant la Révolution.
Mais à ce moment, cette fin du XVIIe siècle, pour prouver leur bon droit et leur noblesse, ces aristocrates vont mettre en œuvre des stratégies pour prouver leurs ancêtres illustres. Et on voit se développer un phénomène nouveau qui prend de l'ampleur, c'est celui de la généalogie. Tout le monde va se lancer comme ça dans des grandes enquêtes généalogiques pour bien prouver qu'il y avait dans ses ancêtres un baron au XIe siècle ou encore plus ancien, et prouver donc son bon droit à l'aristocratie.
Alors oui, ça correspond avec l'enquête de Colbert, et même si on trouve des généalogies avant ça, hein, bien sûr au XVe siècle, même au temps carolingien, on a déjà des généalogies pour la très haute aristocratie. C'est vrai qu'ils ont une propension à s'imaginer des ancêtres fabuleux, et parce que ça augmente l'éclat et le prestige de leur lignage. Et puis ça s'est popularisé jusqu'à aujourd'hui. La généalogie, c'est une passion. Ça s'est démocratisé, hein. C'est une passion nationale, et on peut dire que c'est un des pays certainement au monde où on a le plus le goût de la généalogie. Donc en France, un nombre de généalogistes extraordinaires.
La généalogie
avec d'autres fins.
Oui, et la généalogie est mobilisée, surtout peut-être à cette époque, pour donner corps à cette fiction de l'importance de la race, du sang, et qui sont ces éléments qui sont non plus, comme on avait pu le voir, plutôt le fief ou la seigneurie qui étaient les éléments constitutifs de la noblesse, mais maintenant c'est vraiment le sang et le fait d'appartenir à la race des seigneurs. Mais on voit que cette évolution de l'idéologie s'accompagne aussi d'une évolution des pratiques, qui a notamment une incidence sur les femmes. On voit que le relèvement de cette fameuse pratique du relèvement des noms et des armes dans le cas de mariage sont de plus en plus rares. Par ailleurs, prendre le nom de sa mère n'est quasiment plus possible. En fait, on a un renforcement de la place de l'homme, de la place de l'aîné dans cette société, qui prime avant tout la race et le sang.
Oui, incontestablement dans la noblesse, hein. Mais chez les roturiers, au XIIIe siècle, se met en place la société d'Aquet. Et le partage égalitaire entre garçons et filles, on a déjà les prémices presque de notre code civil, hein, dès le XIIIe siècle. Donc dès qu'on quitte la noblesse, on retombe dans toute autre chose.
et on voit qu'on met en place un certain nombre de nouvelles règles pour encore encourager cette primauté de l'aîné des mâles. On voit qu'on a la possibilité désormais de faire des donations entre hommes en vie. On voit qu'on va inciter un certain nombre d'enfants à se mettre en religion plutôt que d'espérer un quelconque héritage. On voit aussi qu'on va encourager certains de ces enfants à renoncer aux successions, c'est un peu déshérité pour mieux régner cette époque.
Alors ça c'est oui c'est tout à fait un enjeu et une solution juridique d'actualité. Vous savez que on a réintroduit en 2006 la possibilité aux enfants de renoncer à leurs droits. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui avait été aboli au moment de la Révolution parce que évidemment on exerçait des pressions sur les filles pour qu'elles renoncent. Et les révolutionnaires ont interdit cela pour que les filles ne puissent plus renoncer à leurs droits. Et la loi de 2006 a réintroduit cette faculté pour des raisons qui seraient longues à exposer, mais voilà, c'est quelque chose. Vous voyez, il y a une continuité historique intéressante.
Mais nous parlerons certainement jeudi dans notre émission sur l'abolition de l'héritage. Mais aujourd'hui, on reste à l'ancien régime et on voit que cette évolution des pratiques a aussi une incidence sur la manière dont sur la place des femmes dans cet héritage. On voit que les femmes continuent d'être mobilisées pour apporter leur tribut à l'héritage, mais ceux-ci vont être transformés de plus en plus vers des dots et vers des elles apportent avant tout de l'argent et des rentes, de l'argent comptant, non plus des seigneuries mais de l'argent désormais.
Oui, effectivement, on leur donne une dot hein, qui se compose parfois quand même de terres, ça peut arriver même de fiefs, mais essentiellement c'est vrai de rentes, de valeurs mobilières, qu'elles sont. Le mari hypothèque ses biens pour que la femme ait l'assurance de retrouver sa dot une fois devenue veuve. Donc, mais c'est un régime séparatiste hein, en France.
Jusqu'à la fin du XVIe siècle après, oui. Il fait à peu près ce qu'il veut avec la dot.
Oui, il peut aliéner la dot après.
Et dans le droit révolutionnaire, il continue à pouvoir tout aliéner des biens de l'épouse.
Oui, oui, oui.
Mais en tout cas, à cette époque, on voit que le rapport peut-être des femmes aux biens seigneuriaux se distend, puisque ce ne sont plus elles qui apportent dans leur bagage, si je puis dire, des fiefs, mais elles apportent surtout de l'argent. Mais on voit plus largement que cette dissociation entre noblesse et biens porteurs de dignité se distend dans l'ensemble de la noblesse, parce qu'on voit qu'on diminue cet attachement des hommes à la terre. Et d'ailleurs, le roi Louis XIV commence à créer un certain nombre de titres, des duchés, des marquisats, qui n'ont plus rien à voir avec une terre réelle.
Oui, il y a une dissociation qui fluidifie le marché foncier. Ça permet à des nobles de se séparer de leurs biens et de le vendre à des bourgeois qui n'acquièrent plus la noblesse en acquérant un fief. Donc, il y a une monétarisation de la société qui rend le marché foncier plus dynamique. Et comme certaines familles nobles s'endettent, elles sont amenées à se séparer de leurs biens. Bon, donc, effectivement, il y a une dissociation entre la terre et la noblesse. Mais...
Et la dignité donc se détache de cette possession des fiefs. Est-ce qu'on peut parler même d'une forme de spéculation sur les titres à cette époque-là, avec plus de titres qui sont créés que de valeurs réelles, puisqu'il n'y a plus de terres?
Oui, on peut le dire, parce que certains offices anoblissants, c'est-à-dire des fonctions, étaient vendus par le roi pour des sommes assez prodigieuses. Ils étaient anoblissants, on appelait ça la savonnette à vilain, on achetait l'office de secrétaire du roi, et on devenait noble. Voilà, donc ça s'achetait, hein, littéralement, oui.
Mais il faut dire quand même que c'est surtout Napoléon qui a, c'est avec la noblesse d'Empire, hein, qui a vraiment fait une inflation de titres. Et je pense que Proust se moque beaucoup plus des faux nobles venant de l'Empire que des anciens nobles qui s'étaient quand même très liés, aussi bien la robe que l'épée étaient complètement liés sous l'Ancien Régime avec des mariages. Donc, par contre, la noblesse d'Empire, c'est ridicule aux yeux des nobles.
Gerbe de fleurs miséréré, les bons de la victoire disparurent en premier, et les fonds de tiroir étalés sur le plancher. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs miséréré.
Moi, je prends la maison, je suis l'aîné des garçons. Non, toi, ce sera le piano, emporte-le dans sur ton dos. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots. Rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré.
Merci Eliane Viennot et Jean Viré d'avoir été parmi nous pour évoquer les rouages de l'héritage sous l'Ancien Régime. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs, Eliane Viennot, de La France, Les femmes et le pouvoir, l'invention de la loi salique aux éditions Perrin. Jérôme Viré, Le sol et le sang, la famille et la reproduction sociale en France, du Moyen-Âge au XIXe siècle, aux éditions du CNRS. Demain, nous évoquerons le capitalisme familial, mais en attendant, vous pouvez retrouver toutes nos émissions disponibles à l'infini en podcast ou sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « Entendez-vous l'écho ?»
Le fils qui est médecin hérite du râteau à foin. Celui qui est aviateur d'une paire de 200 valeurs. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots. Rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Béatrice voulait le veau, c'est Siméon qui l'a eu. Donc elle a ouvert le clos, flâne orphelin dans la rue.